Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la présidence à venir de Barack Obama. Nos invités, Catherine Croisier, chercheuse associée au Centre d'études transatlantiques, Olivier Hubach, consultant à la Compagnie européenne d'intelligence stratégique, Ronald Atto, professeur en relations internationales à Sciences Po Paris, et Philippe Golub, professeur en relations internationales à Paris 8 et à l'Université américaine de Paris. Sur quel point de politique étrangère l'Amérique va-t-elle devoir revoir ses positions? On va commencer par l'Irak en disant, pour démarrer, que l'Irak va connaître la fin de l'obsession de George Bush. Catherine Croisier.
Oui, Obama a pris des positions très très fermes sur l'Irak. C'est sans doute ce qui a permis d'ailleurs son élection, en tout cas au moins sa nomination pour le Parti démocrate. Obama s'est engagé dès le départ à retirer les troupes américaines d'Irak. Bon, sur le fond, finalement, c'est une poursuite d'un processus qui s'est engagé sous l'administration Bush, puisqu'il y a ce fameux accord sur le statut des forces américaines qui prévoit un retrait programmé, un calendrier programmé jusqu'à 2011 pour un retrait des forces américaines. Donc, grosso modo, entre le plan qui est en train d'être élaboré de façon bilatérale entre le gouvernement irakien et l'administration Bush, et le programme de retrait en 16 mois de Barack Obama, bon, il n'y a que quelques mois d'écart. Bon, ce qui est intéressant d'observer, c'est que l'Irak, bien sûr, c'est l'obsession d'Obama de dire que c'était une guerre qui n'avait pas eu lieu d'être et qu'il fallait absolument se retirer d'Irak. Pour autant, cela ne signifie pas qu'Obama veuille se détourner des conflits dans le monde, puisque l'idée derrière tout cela, c'est d'utiliser les forces actuellement en Irak pour les envoyer en Afghanistan. Mais le Pentagone a déjà commencé à réduire nettement sa présence en Irak depuis le début de l'année.
Donc moins d'Irak et plus d'Afghanistan, Yves Hubach.
Oui, même pour revenir sur l'Irak et même clore, enfin à moins que vous vouliez intervenir sur l'Irak, on est en fin d'opération. C'est-à-dire que les propositions de Mike Kane quand il était candidat et de Barack Obama étaient la communication dans les deux cas. L'un disait qu'il fallait changer de stratégie, mais il y avait déjà quelques années qu'elle était changée. Petraeus avait d'abord, avant d'aller en Irak, été chargé de la formation des officiers partant en Irak où il les avait déjà formés à la contre-insurrection qui mettait le cœur de la population au centre des opérations. Et ensuite, il est allé appliquer ce qu'il a enseigné à des officiers qui avaient déjà été envoyés sur zone. Il a ensuite dirigé ses opérations pour changer cette stratégie. Donc la stratégie était changée. Ensuite, la question du retrait promis par Barack Obama, il parle de 16 mois, si mes souvenirs sont bons, et l'accord SOFA qui est en cours de négociation, qui, après c'est une question de modalité, mais globalement les dates prévues ne devraient pas changer. C'est fin 2009, retrait des troupes américaines des villes, et fin 2011, en gros, retrait des troupes américaines. La question sur laquelle pourra peut-être jouer Barack Obama, c'est sur la question de maintien de troupes ad vitam aeternam pour aider les forces de sécurité irakiennes à coup de renfort essentiellement de forces spéciales. La question, à mon avis, se jouera là. Je pense maintenant que Barack Obama bénéficie d'une image surtout très positive. Là, on est vraiment dans la communication et je pense qu'il aura tout intérêt de façon très symbolique à annoncer éventuellement un retrait à hauteur de plusieurs milliers d'hommes qui ne changeront pas radicalement la situation en Irak en 2009, qui sera peut-être même d'ailleurs prévue et déjà programmée par le Pentagone, mais simplement avec un effet d'annonce très fort pour dire on tourne la page. Mais je pense que c'est limité surtout à un effet d'annonce politique.
Philippe Golub.
Je pense qu'il faut revoir ce que voulait l'administration Bush. L'administration Bush voulait, je ne parle pas tout à fait au début, je parle de il y a deux ans, voulait une occupation de 50 à 80 ans de l'Irak. Ils l'ont dit, ils l'ont redit, il y a des textes, il y a des documents, tout cela est parfaitement officiel. Ils ont comparé l'Irak à la Corée du Sud, c'est-à-dire des bases militaires permanentes de grande envergure en Irak pour 50 à 80 ans. C'est d'ailleurs une forme d'occupation très longue, même si c'est consensuel, c'est quand même une forme d'occupation, n'est-ce pas ? La question qui se pose aujourd'hui pour Barack Obama, le retrait, certes, mais y aura-t-il des bases ou pas ? Et s'il y a base, est-ce que ces bases seront placées en Irak avec l'assentiment du gouvernement central ou pas? Les chiites aujourd'hui, le basculement dont vous avez parlé de la politique américaine sous Petraeus n'est pas un basculement qui était destiné à retirer les États-Unis d'Irak, c'était un basculement destiné à repousser l'influence chiite en Irak. À partir de 2006-2007, l'état-major politico-militaire américain a changé de stratégie parce qu'il craignait que l'Iran devienne la puissance dominante de la région. Ils ont basculé du côté des chiites, des sunnites, pardon. Donc se pose aujourd'hui la question de savoir si Barack Obama veut un retrait général, plus de base militaire du tout. Et il y en a une autre question, beaucoup plus importante peut-être, c'est est-ce que les Irakiens eux-mêmes voudront que des Américains, y compris des forces résiduelles, restent. Ce n'est pas du tout
ça. Ça, c'est le genre de choses qui se monnaient, Philippe Glube.
Pas toujours. Si je pense que la direction chiite, aujourd'hui, ne veut plus de base militaire américaine. Les Kurdes, oui. Voilà. Et les Sunnites, peut-être.
Ronald Dato.
Les Kurdes, je pense que les Américains auront tout intérêt à se positionner au nord de l'Irak, près des Kurdes qui, eux, sont très, très pro-américains. Par contre, le problème pour les Américains, c'est qu'en se rapprochant des Kurdes d'Irak, ils s'éloignent des Turcs. Et je vous parlais de la mer Noire tout à l'heure. La situation actuelle est paradoxale dans la mesure où Turcs et Russes, qui sont réputés pour être assez, ne sont pas des alliés, s'entendent très bien sur un point, c'est le fait de dire que la mer Noire doit rester un lac libre de forces américaines. Et tout ça, je pense que ça date aussi de l'invasion américaine de l'Irak en 2003, où à partir de ce moment, l'anti-américanisme est devenu très, très virulent en Turquie et partagé non seulement par l'opinion publique, mais aussi par le gouvernement turc qui voit d'un très mauvais œil les Américains soutenir une autonomie très poussée des Kurdes d'Irak.
L'Iran, dialogue ou pas dialogue, et quelle va être la position d'Israël? Qui veut répondre? Catherine Croisier?
Alors, Iran, dialogue, oui, ça a été le message d'Obama depuis le début, qu'il était favorable à discuter avec toutes les nations du monde, même celles qui sont dites hostiles envers les États-Unis, mais peut-être pas un dialogue à n'importe quel prix et n'importe comment. Il faut dire que même l'administration Bush dialogue avec, pas sur le devant de la scène, bien sûr, mais dialogue avec l'Iran. Les enjeux sont extrêmement importants. Ce ne sera pas à n'importe quel prix, bien sûr. Néanmoins, ce sera vraiment un grand dossier.
Olivier Bach.
Ce sera la poursuite de ce qui se fait, mais là aussi avec plus de poids. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà des négociations entre les Américains et l'Iran, mais de façon indirecte. Là, ce que propose Barack Obama, c'est de le faire de façon directe. Donc là, il y aura effectivement autour de la table des négociations une véritable nouveauté. Alors, la difficulté, ça va être surtout une fois, si les Iraniens acceptent, c'est une fois installés à la table. C'est-à-dire qu'a priori, les Iraniens pourront difficilement refuser d'aller à cette table si Barack Obama leur propose, puisqu'ils ont toujours dit qu'ils avaient ce refus de pouvoir dialoguer directement avec les Américains. Si les Américains le font, ils seront plus ou moins obligés d'aller à cette table. Maintenant la suite, ce sera extrêmement délicat, parce qu'il y aura obligation, comme ça vient d'être dit, d'être assez ferme, si jamais ça se passe mal. Mais ferme jusqu'où? Et avec quels moyens?
On a évoqué tout à l'heure la question du soutien du Congrès envers la politique d'Obama sur l'Iran. Obama est quand même resté ferme vis-à-vis de l'Iran, c'est-à-dire qu'il est prêt au dialogue, mais il a été un des sénateurs qui était en faveur de sanctions économiques importantes si Téhéran poursuivait ses ambitions nucléaires. Il voulait notamment que les sociétés américaines qui investissent, je crois, quelques 20 millions de dollars dans le secteur de l'énergie en Iran, soient sur une liste officielle. Donc il sera quand même assez ferme, je pense, vis-à-vis de Téhéran.
Ronald Dato.
Il y a le facteur israélien aussi. Je pense que Barack Obama ne peut pas paraître faible ou doux à l'égard du régime iranien, puisque les Israéliens restent en arrière-plan. Il y a toujours la fameuse possibilité d'une frappe israélienne sur les réacteurs iraniens. On l'a vu en juin 81, les Israéliens n'ont pas hésité à lancer des frappes sur le réacteur Osirak. Et donc, je pense que ça, c'est un élément extérieur à la politique étrangère américaine en tant que telle. Mais l'imbrication des deux politiques étrangères, c'est-à-dire politique américaine, politique israélienne, étant tellement proche que je pense que Obama a une marge de manœuvre assez limitée là-dessus. Par contre, ce que j'aimerais ajouter, c'est que, étant donné la popularité d'Obama en Europe, j'ai l'impression qu'Obama devrait capitaliser sur cette popularité auprès des Européens pour essayer de faire une diplomatie multilatérale transatlantique à l'égard de l'Iran. Peut-être que Obama pourrait justement se servir de ses alliés européens pour négocier avec les Iraniens de façon plus consensuelle.
Philippe Golub.
Il n'est pas impossible, c'est pas la plus grande probabilité, mais il n'est pas impossible. Il y a des conseillers autour de Obama qui le suggèrent, et dans les milieux de sécurité nationale aux États-Unis, qui suggèrent une remise à plat générale des relations irano-américaines, c'est-à-dire un basculement en quelque sorte de la politique américaine, qui se ferait évidemment dans le temps, ce ne serait pas un grand coup. Les Iraniens, la direction iranienne sous Khatami, en 2001, avait collaboré avec les États-Unis dans l'invasion américaine en Afghanistan et la mise en place du gouvernement Karzai. En 2003, l'État iranien, de façon indirecte, à travers la Suisse, avait proposé aux États-Unis une remise à plat des relations, il est possible que des négociations de grande ampleur commence entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, mais évidemment, on ne le verra pas tout de suite. On ne verra pas tout de suite. Et
quelle
il existe
échéance?
Des contraintes, comme en particulier la contrainte israélienne, qui est très réelle.
Olivier Bach.
Et puis pour revenir juste sur l'Iran, s'il y a des élections prévues en 2009 en Iran, qui devraient aussi, peut-être, de toute façon assez probable d'ailleurs, d'après les analystes qui s'occupent de l'Iran, éventuellement donner un nouveau paysage politique à ce pays.
Exactement.
Qui pourrait changer la donne. On va avoir en fait deux acteurs, l'Iran et les États-Unis, qui, les États-Unis s'est fait, c'est changé, et l'Iran qui va probablement être peut-être un peu plus modéré, et donc à ce moment-là, on peut imaginer des négociations plus faciles.
Mais moi, si je peux me permettre, encore une fois, je déplore l'absence d'ambition diplomatique de l'Union européenne. Comme je le disais, pour avoir travaillé sur la mer Noire, ce qui est demandé de la part des pays riverains de la mer Noire aux Européens, c'est de s'investir davantage dans la gestion des conflits gelés, ce qu'on appelle « frozen conflict », par exemple. Et les Européens ne semblent pas attacher vraiment d'importance à la région. Et je pense que c'est la même chose en ce qui concerne l'Iran. Il y a un discours, il y a de la communication qui se fait, mais il y a assez peu d'actes concrets de la part de l'Union européenne à cet égard-là. Et je pense que là, étant donné les basculements dont on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la montée en puissance de l'Asie comme, je pense que le centre de gravité du monde est en train de basculer du côté de l'Asie-Pacifique, je pense que c'est dans l'intérêt autant des Européens que des Canadiens et des Américains de travailler ensemble pour essayer de gérer les grands problèmes comme celui de l'Iran, par exemple, ou la crise entre la Géorgie et la Russie.
Olivier Bach.
Je crois qu'il faut peut-être ici rappeler rapidement pourquoi l'Union européenne est, excusez-moi l'expression, un nain politique. C'est tout simplement que le principe repose sur le consensus à 27. Et d'où l'incapacité de l'Union européenne à se prononcer sur tous les grands dossiers. Qui dit grand dossier dit complexité et dit donc impossibilité d'arriver à un accord qui tienne la route. Voilà, c'était juste une parenthèse.
Alors une petite question pour clore cet aspect international. Il y a des tas de dossiers qu'on n'a pas abordés, la Corée du Nord, etc. Finalement, Obama, il va passer plus de temps du côté Pacifique que du côté Atlantique. Philippe Goulube.
Il va commencer par s'occuper des affaires intérieures américaines, parce que c'est là la priorité des priorités pour lui. Et donc il va tenter, me semble-t-il, de trouver des accords internationaux susceptibles d'aider justement à la sortie de crise économique et sociale. Le grand péril pour l'avenir proche, me semble-t-il, de ce point de vue-là, et pas seulement pour les États-Unis, c'est un repli des États-nations sur eux-mêmes, de blocs protectionnistes, antagonistes
pour
qui se constitueraient.
Pour cause de crise financière.
Pour cause de crise économique et financière. La récession ne fait que commencer, n'est-ce pas? Aux États-Unis et ailleurs, et on dit récession, ça va être une récession dure et longue, et donc sa priorité est celle-là. Mais c'est vrai qu'à terme, le bascule vers l'Asie-Pacifique fait que la vision américaine ne sera pas nécessairement transatlantique, à dominante transatlantique dans les années à venir, dans les décennies à venir, mais à dominante transpacifique.
Catherine Croisier.
Oui, je suis d'accord sur ce sujet. C'est pour ça que l'Union européenne a tellement besoin de se mettre d'accord, de ne parler que d'une voix, pour enfin avoir une crédibilité réelle à Washington.
Alors, l'Europe réussira-t-elle à parler d'une voix? D'entrée de jeu, ce qu'elle apparaît quand même, c'est assez décalé, l'Europe, face à ce président américain, Barack Obama, jeune. Et puis, donc j'aimerais que vous me répondiez là-dessus. Et puis que, pour terminer l'émission, on parle un peu de l'héritage Bush, finalement, ces années Bush. Comment est-ce qu'elles vont apparaître dans l'histoire? Philippe Goulube.
Pour ce qui concerne l'Europe, me semble-t-il, nous sommes tous ici d'accord que, me semble-t-il, qu'il faut une voix plus unifiée, plus forte, plus claire, européenne, mais on ne voit pas les mécanismes politiques ou institutionnels pour que cette voix VOIX et que cette voix VOIE se constitue. Donc il me semble que les embûches sont multiples et il y aura des cercles européens qui existeront. Évidemment, l'Europe est une zone riche et continuera à exister, mais peut-être pas comme acteur décisif des relations internationales. Quant à George Bush, qui a voulu révolutionner, George Bush, Dick Cheney, etc., qui ont voulu révolutionner les relations internationales, remettre en cause l'ordre mondial, ils laissent derrière eux, je pense que ce n'est pas dire trop, un paysage de désolation diplomatique et politique, une image des États-Unis d'un État qui n'est plus un État démocratique, libéral, mais un État semi-autoritaire pratiquant la torture, deux guerres qui n'ont pas atteint leurs objectifs, et in fine, pour culminer, la plus grande crise économique et financière depuis les années 30. C'est une administration qui, en tentant de révolutionner l'ordre mondial, a fait s'effondrer l'ordre mondial, en quelque sorte, et maintenant tout est à reconstruire.
Et comment tout cela va être écrit dans les livres d'histoire, Ronald Dato?
Écoutez, c'est une très très bonne question. Moi, ce que je déplore comme Nord-Américain, assez pro-américain justement, c'est d'avoir, de la part de George W. Bush, avoir brisé l'image plutôt positive que l'administration Clinton avait réussi à créer. Bon, il y avait de l'anti-américanisme avant George W. Bush, ça a toujours existé. Mais je pense qu'on n'a jamais atteint les sommets qu'on a atteints avec George W. Bush. Et à mon avis, ce qui est en train de se produire avec Obama, on en a parlé dès le début de l'émission, c'est une espèce de revirement. Je pense que le monde entier continue de vouloir une Amérique forte et capable, finalement. On reproche souvent aux Américains.
On n'en fait peut-être pas. Mais
en tout
l'Europe.
Cas. Mais encore, je pense que.
Canada.
En Afrique aussi, je pense qu'il y a des Africains qui ont, un espoir de voir Obama redonner à l'Amérique sa place privilégiée de.
Leader
éclairé. Hein, et là, je pense que c'est ça. Qui convoit avec Obama. Et donc, je pense que Bush va laisser une très mauvaise impression dans les livres d'histoire. Je ne sais pas comment on le traitera, mais c'est certainement pas une administration qui laissera un bon souvenir, c'est clair.
Olivier Bach, vu d'un point de vue stratégique.
Ouais, c'est tout simplement une catastrophe. On le voit avec l'Irak. Alors, l'Irak sera ni perdu ni gagné en fin de compte, mais les Américains y ont léché très cher en fin de compte. Et puis alors le théâtre afghan, dont on n'a aucune idée de l'issue de cette guerre, parce qu'elle peut être encore perdue celle-ci, avec une double problématique. D'une part, les Américains qui sont engagés sur leur propre opération, Enduring Freedom, depuis 2001. Et puis à côté de ça, les opérations OTAN sous mandat ONU. Il y a deux opérations distinctes. Hein. Quand les Américains parlent d'augmenter les troupes, il faut bien préciser de savoir si c'est les troupes au niveau OTAN ou les troupes au niveau purement américain. Parce que ça change la donne pour les alliés OTAN. C'est un renfort dont ils ne vont peut-être pas directement bénéficier, puisque les Américains interviennent dans des zones où ils sont souvent seuls, sans l'OTAN. Alors après, il y a la question, effectivement, de l'OTAN. Alors l'OTAN joue très gros. L'administration Bush, en ayant poussé à engager l'OTAN sur le théâtre afghan, c'est-à-dire hors de ses frontières, entre guillemets, enfin juridiques, donc hors de l'espace européen. C'est un test énorme pour l'OTAN. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, Barack Obama l'a dit dans son discours de Berlin. Le test est tel que l'OTAN ne peut pas se permettre de perdre cette guerre qu'il fait à l'extérieur de ses frontières juridiques. Et cet héritage, c'est pas Bush qui va le gérer, c'est Barack Obama et peut-être même le suivant, si c'est pas lui, qui aura à le gérer. Certains parlent d'une guerre.
Tellement il faudra du temps. Et finalement, plutôt que des idées nouvelles chez Obama, c'est davantage une remise en ordre. Il va falloir faire non pas le ménage, mais remettre de l'ordre. C'est bien ça, Philippe Gelu.
Il faudra une réduction d'abord, une réduction des ambitions. Même si Obama a une vision éclairée du monde, une réduction des ambitions, c'est-à-dire une réduction de la présence, me semble-t-il, serait nécessaire, de la présence militaire, de l'empreinte militaire américaine dans le monde. Ce serait un signe, me semble-t-il, à tous les acteurs qu'il y a une certaine forme de pacification de la politique extérieure américaine, ce qui devrait bien sûr être négocié avec d'autres pour que d'autres le fassent aussi. Donc il y a une réduction des ambitions, mais en même temps une restauration, effectivement, je suis d'accord, une restauration de l'attractivité de l'Amérique comme modèle social et sociétal, comme société cosmopolite ou tendant vers le cosmopolitisme ou plus ouvertement que la plupart des sociétés qui sont culturellement plus homogènes que les États-Unis. Je pense que les États-Unis pourraient là, effectivement, avoir un impact positif sur les relations internationales.
Ronald Dato, très rapidement, après ça, je vous laisserai le dernier mot, Catherine Croisier.
Une chose est sûre, c'est la fin de l'unipolarité. On parlait du moment unipolaire en 91, 92, 93. Ben là, je pense qu'on vient d'atteindre la fin de l'unipolarité. Le moment unipolaire vient de se terminer.
Tout à fait.
Catherine Croisier.
Fin du moment unipolaire, mais un retour sans doute à la puissance douce qui a permis à l'administration de Clinton de demeurer chère dans le cœur des Européens, et c'est une bonne nouvelle.
Merci. C'est la fin de Géopolitique le débat. Merci à nos invités, Catherine Croisier du Centre d'études transatlantiques, Olivier Hubac de la Compagnie européenne d'intelligence stratégique, Ronald Atto de Sciences Po Paris et Philippe Golub des universités de Paris 8 et américaines de Paris. Géopolitique était signé Marie-France Chatin. Merci à la documentation de RFI. Benjamin Vaillou était à la réalisation, Julien Lingue à la technique. Très bonne semaine à tous.